de ces temps de l'Avent. Et la Vierge Marie, dans la liturgie, a une place particulière, vous avez remarqué. Elle est présente non seulement par la fête de l'Immaculée Conception que nous célébrerons dimanche prochain, mais également pendant les messes des quatre temps. Au mercredi des quatre temps, on célèbre l'Annonciation, et le vendredi des quatre temps, la Visitation. Et du reste, au moins la fête de la Visitation n'avait pas encore de célébration, et on la célébrait pendant ces quatre temps de l'Avent autrefois, avant que la fête du 2 juillet soit instituée. Ça nous montre comment la Vierge Marie, évidemment, a un rôle central pendant ce temps. Nous voulons, pendant cette deuxième conférence, contempler Notre-Dame pour nous imprégner de son esprit, puisqu'elle a synthétisé dans son âme, on peut dire, elle a assumé dans son âme l'attente du salut de tous les patriarches et de tous les saints du Ancien Testament. Donc pendant 4000 ans et plus, ils ont attendu, ils ont soupiré vers la venue du Messie. Et la Sainte Vierge, qui était elle parfaite, dont tous ses anciens, tous ses saints, même comme Abraham, comme Moïse, étaient certes saints, mais n'étaient pas parfaits comme la Vierge Marie, et elle a, en perfection, reprise pour elle-même, synthétisé cette attente, ce désir de la venue du salut. Alors aujourd'hui, nous pouvons facilement nous associer à cette attente des patriarches, à ces soupirs de la Sainte Vierge, étant donné que notre époque est de plus en plus difficile, apocalyptique, sans repère, et ainsi nous soupirons vers le retour du règne du Christ, vers le retour de notre Seigneur quand il viendra remettre toute justice dans le monde. La Sainte Vierge est là pendant ce temps de l'Avent pour nous guider, pour former nos âmes, pour l'avènement spirituel de Jésus en nous chaque année à Noël. Il revient d'une façon spirituelle chaque année. La Sainte Vierge nous instruit aussi donc du sens de ce prélude de la victoire finale qu'est la destruction de la chrétienté, l'apostasie des nations que nous vivons aujourd'hui. Ce ne sont que les préludes du retour glorieux de notre Seigneur à la fin des temps. Nous verrons trois événements de la vie de Notre-Dame avant la naissance de Jésus, c'est-à-dire son Immaculée Conception, le jour où elle était conçue dans le sein de Sainte-Anne, puis l'Annonciation et enfin la Visitation. Puis ensuite, nous en tirerons quelques leçons pour ce temps de l'Avent. D'abord, son Immaculée Conception. C'est le début de son existence, comme pour nous, la conception, c'est le début de notre existence, mais chez elle, l'Immaculée Conception a un caractère miraculeux, extraordinaire, c'est qu'elle est exempte, comme vous le savez, de la tâche du péché originel. Alors que se passe-t-il dans cette âme? Parce que selon la plupart des auteurs, des pères de l'Église, des prédicateurs, elle jouissait de l'usage de la raison dès sa conception. Donc elle n'était pas inconsciente ou passive dans son âme, tout enfant, encore dans le sein de sa mère, mais elle était consciente. Que faisait-elle? Eh bien, le père Ollier, Jean-Jacques Ollier, le fondateur des séminaires de Saint-Sulpice au XVIIe siècle en France, nous dit, en nous présente cette âme de Notre-Dame dans sa conception, « C'est le chef-d'œuvre de l'amour de Dieu, dit-il. » C'est ce que Dieu a su faire de plus parfait dans une pure créature, ayant réuni en elle tout ce qu'il a pu mettre dans un sujet qui ne fut pas Dieu, comme son Fils. Certes, le plus parfait des hommes est notre Seigneur Jésus-Christ, mais lui est Dieu. Donc, dans tous ceux qui ne sont pas Dieu, c'est la Sainte Vierge qui est le chef-d'œuvre. C'est pourquoi, toute possédée par l'Esprit Saint et dilatée par cet Esprit Tout-Puissant, cette divine Vierge exerce dès sa conception non pas seulement les actes de l'amour en toute leur ferveur et en toute leur perfection, mais l'opération de ce divin esprit en elle, par l'opération de ce divin esprit en elle, tous les actes imaginables des vertus. La Sainte Vierge donc s'offre tout simplement. elle est consciente de son existence, de qu'elle vient d'arriver au monde. Elle a une connaissance particulière de Dieu que rien n'empêche, puisqu'elle n'a pas la tâche du péché originel. Et elle se tourne vers Dieu aussitôt, tout entière. Père Ollier dit, « Cette sainte âme, au moment de sa formation, rend à Dieu tous les devoirs possibles et s'offre à lui en tout ce qu'elle est et en tout ce qu'elle sera jamais. » Voilà l'attitude de Notre-Dame, qui n'a pas changé radicalement plus tard. Simplement, cet esprit de religion n'a fait que grandir pendant toute sa vie. Deuxième épisode, c'est son Annonciation. Le deuxième grand épisode de la vie de Notre-Dame. L'ange lui apparaît, lui demande si elle accepte de devenir la mère du Messie et la mère de Dieu. Et elle répond tout simplement, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Dans ces simples mots, dans cette simple réponse, on trouve son humilité, mais également son enthousiasme. Ce n'est pas un assentiment passif, mais un assentiment enthousiaste. Son humilité. L'ange la salue en l'appelant pleine de grâce. Elle répond en disant « Je suis la servante du Seigneur ». Elle répond en commençant par se nommer une servante. Et cette parole résume ce que nous avons vu dans son Immaculée Conception, toute sa vie intérieure, elle est à disposition de Dieu. Ce que vous voudrez, au plaisir de Dieu, pourrait-il. Elle est depuis toujours toute livrée, consacrée à la volonté de Dieu. Elle commence dans sa réponse par exprimer cette adoration avant même d'exprimer son consentement. Dieu est tout, je ne suis rien, je suis la servante du Seigneur. Et Don Guillerand, un chartreux, commente, elle est humble parce qu'elle s'oublie. L'oubli de soi la tient à sa place, elle n'en sort pas. Vous voyez, malgré les paroles de l'ange, il la loue, il exalte, elle ne sort pas de sa place. Elle répond, je suis tout simplement la servante du Seigneur. La simplicité est une conclusion pratique de l'humilité. C'est le résultat d'une vue claire. L'humilité voit la vérité, la simplicité tend à la vérité en plein. On ne voit que Dieu, on ne veut que Dieu, on ne tend qu'à Dieu. C'est Dieu qui est au fond de cette vue, de ce vouloir et de cette marche. Dieu produit l'œil saint, le vouloir plein, le mouvement unique. La simplicité de Marie est due à l'harmonie parfaite de tout son être, unifié, accordé en Dieu. Et c'est ce qui nous manque à nous. Nous n'avons pas encore cette unité dans notre être, à cause des blessures du péché, peut-être pas assez combattues. Alors, nous n'avons ni cette humilité parfaite, ni cette simplicité parfaite qu'il y avait dans cette âme toute unifiée de Notre-Dame. En elle, continue Don Guillerand, il n'y avait pas deux vies et deux mouvements qui peuvent s'opposer et souvent se heurtent, ce qui est le cas pour nous. Il y a le mouvement de la grâce qui nous fait nous tourner vers Dieu, le mouvement du Saint-Esprit qui vit en notre âme, et puis il y a le mouvement de la nature qui nous fait nous tourner soit vers les créatures d'une façon excessive, soit vers nous-mêmes. La Sainte Vierge manifeste dans cette réponse à l'ange sa disponibilité complète. Elle renouvelle sa mise à disposition entière à Dieu. Et ici, la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, que je vous citais hier et que je vous citerai encore, commente, elle reprend ces paroles de l'Évangile, du premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean, « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. » Vous voyez, ça c'est toute l'histoire du monde, depuis le début et malheureusement aussi même depuis l'incarnation. « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. » Saint Jean-Baptiste, dit la bienheureuse Élisabeth, pourrait encore dire à bien des âmes cette parole de reproche. il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. » Et notre Seigneur disait à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, voilà ce qui nous manque. Il est là, mais nous ne le connaissons pas. » Il est une créature, dit la bienheureuse Élisabeth, qui connut ce don de Dieu. Une créature qui n'en perdit pas une parcelle, qui fut si pure, si lumineuse, qu'elle semble être la lumière elle-même. Une créature dont la vie fut si simple, si perdue en Dieu, que l'on ne peut presque rien en dire. C'est la Vierge fidèle qui gardait toutes choses en son cœur. C'est la première partie de sa réponse. « Je suis la servante du Seigneur. » Elle répond tout simplement à l'ange, à cette demande de l'ange qui dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer, qui dépasse tout ce qu'elle se sent capable de faire, être mère du Messie. Elle répond tout simplement « Je suis à disposition. » Mais c'est plus que ça. Je vous disais qu'il y a l'enthousiasme. Et c'est la deuxième partie de sa réponse. Non seulement elle dit « Je suis la servante du Seigneur », mais elle répond avec cette formule impérative « Qu'il me soit fait selon votre parole. » Ce n'est pas un simple assentiment, c'est une réponse enthousiaste, un engagement joyeux à servir Dieu. « Qu'il me soit fait selon votre parole. » Elle répond en connaissant, d'une façon générale, les aboutissants de sa mission de mère du Messie. Elle connaît la Sainte Écriture, elle connaît le prophète Isaïe, elle sait que ce Messie aura à souffrir, que ce Messie sera même, Isaïe le montre bien au chapitre 53e, le prophète David dans ses psaumes le montre aussi, dans plusieurs des psaumes, le psaume 21, le psaume 68, que sa fin sera tragique. Et elle connaît donc ses souffrances du Messie et donc les souffrances de sa mère. Eh bien, elle laisse à Dieu carte blanche. Elle est prête aux grandes œuvres, bien qu'elle se sente elle-même toute petite. On pourrait la comparer à Sainte Jeanne d'Arc, qui, elle, a résisté quelque peu avant de partir, avant de répondre aux demandes de Saint-Michel, mais elle est partie et elle s'est vouée tout entière à la mission que Dieu lui donnait. La Sainte Vierge donc se consacre à cette mission. Elle n'est pas exaltée par le choix de Dieu, elle n'est pas inquiète, elle ne s'appuie pas sur elle-même, elle se considère toujours comme une petite servante, silencieuse, effacée. Et Saint Bernard explique, si Dieu l'a choisie, elle, si elle a mérité de devenir mère de Dieu, c'est par sa pureté et par la puissance de son désir. Il explique, cet aqueduc, vous savez, ça fait partie de ces sermons de Saint Bernard pour le temps de l'Avent, qui sont magnifiques, que je vous recommande. Il y a 4 ou 5 sermons pour le temps de l'Avent qui sont très célèbres, du reste, que vous pouvez lire pendant ce temps, c'est assez facile à trouver. Et ce sont les sermons sur l'aqueduc, parce que la Sainte Vierge est l'aqueduc qui conduit l'eau qui vient du ciel à la terre, qui répand la rosée du ciel sur la terre en mettant au monde le Verbe de Dieu. Alors il écrit, cet aqueduc a pris au cœur du Père la plénitude même de la source et nous l'a donnée ensuite, sinon telle qu'il l'avait reçue, du moins telle que nous pouvions la recevoir. Mais comment cet aqueduc, comment notre aqueduc, a-t-il pu aller prendre une source si élevée? Comment? Par la violence du désir, par la ferveur de la dévotion, par la pureté de la prière. Et comment aurait-elle pu atteindre à cette inaccessible majesté, si ce n'est en frappant, en demandant et en cherchant? Oui, c'est bien au plus haut des cieux qu'elle est allée le prendre, et par-delà les anges, quand elle a reçu le Verbe du sein de Dieu même. Vous voyez, cet aqueduc est monté dans le sein de la Trinité même pour recevoir le Verbe, le rendre petit, l'appetisser, dit Saint François de Sales, le rendre petit à notre mesure pour que nous puissions le recevoir. Et ça, c'était sa mission, et elle y a répondu et correspondu de toute son âme, en toute simplicité et aussi en toute humilité. troisième épisode que nous célébrons pendant l'Avent et dans toute cette période qui sépare l'Annonciation et Noël, c'est la visitation. La visite de Notre-Dame à sa cousine qu'on célèbre maintenant le 2 juillet. Ce que nous pouvons ici contempler dans cet épisode de la visitation, c'est deux points. D'abord, Notre-Dame porte déjà en son sein le Verbe incarné. Elle vit avec elle, non seulement pendant le voyage, mais pendant les 6 mois qu'elle passera chez sa cousine. Et le deuxième point, c'est son dévouement au prochain. Les deux vont ensemble, les deux doivent aller ensemble, on le verra tout à l'heure dans les applications pratiques. C'est que notre vie d'union à Dieu ne doit pas se séparer de la vie d'union de service du prochain. Et c'est bien ce qu'elle a vécu. Donc d'abord, cette présence, cette attention incessante de Notre-Dame à Jésus. Certes, il n'y a que les mères qui puissent le comprendre, qui ont eu des enfants, de ce que c'est que d'avoir son enfant en soi. Mais ici, non seulement c'était un enfant comme les autres, mais en plus c'était Dieu. Donc il y avait, elle portait en elle Dieu. Voici les commentaires de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité en 1903. Elle écrit à sa sœur, qui elle-même est mère de famille. Pense-t-on à ce que devait être dans l'âme de la Vierge lorsqu'après l'incarnation, elle possédait en elle le Verbe incarné, le don de Dieu? En quel silence, quel recueillement, quelle adoration elle devait s'ensevelir au fond de son âme pour étreindre ce Dieu dont elle était mère? Il me semble que l'attitude de la Vierge durant les mois qui s'écoulèrent entre l'Annonciation et la Nativité est le modèle des âmes intérieures. Dans quelle paix, dans quel recueillement Marie se rendait et se prêtait à toute chose. Comme les plus banales étaient divinisées par elle, car à travers tout, la Vierge restait l'adorante du don de Dieu. Saint Luc nous dit tout simplement, toujours très brièvement, comme dans tout son évangile, la Vierge conservait ces choses dans son cœur. Toute son histoire peut se résumer en ces quelques mots. C'est en son cœur qu'elle vécut et à une telle profondeur que le regard ne peut la suivre. Un premier aspect de cette vie de Notre-Dame après l'incarnation, elle est non seulement comme auparavant servante de Dieu, mais elle vit en sa présence d'une façon très particulière parce qu'elle le porte en son sein. Et c'est le modèle des âmes intérieures. Deuxième aspect, mais qui va ensemble, la Sainte Vierge se dévoue, avec sans doute beaucoup de travail, dans la maison de sa cousine. Notre-Dame se rend chez elle pour lui rendre service, avec les sacrifices que cela suppose, notamment de se séparer pour un temps de Saint-Joseph. Et voici le commentaire, je continue ce commentaire de la bienheureuse Élisabeth. Cela n'empêchait pas Marie de se dépenser au dehors lorsqu'il s'agissait d'exercer la charité. L'Évangile nous dit que Marie parcourut en toute diligence, donc elle se pressait, les montagnes de Judée pour se rendre chez sa cousine Élisabeth. Jamais la vision ineffable qu'elle contemplait ne diminua sa charité extérieure, car si la contemplation s'en va vers la louange et vers l'éternité de son Seigneur, elle possède l'unité et ne la perdra pas. Je la vois passer, si belle, si calme, si majestueuse, si recueillie au-dedans avec le Verbe de Dieu. Comme lui, sa prière fut toujours celle-ci, « Me voici, la servante du Seigneur, la dernière des créatures, alors qu'elle est sa mère. » En résumé, dans ces 3 épisodes, l'Immaculée Conception de Notre-Dame dans le sein de Sainte-Anne, l'Annonciation, son consentement à l'incarnation, son consentement à la mission de devenir mère du Messie et associée de notre Seigneur dans la rédemption, et puis dans la Visitation qui nous montre sa vie quotidienne en présence de Jésus, dans son sein, sa vie intérieure, conjuguée à la charité fraternelle et le service du prochain. En résumé, nous voyons qu'elle vit une vie extérieure assez commune, toute simple, sans singularité, mais son trésor, l'essentiel de son cœur est à l'intérieur. Elle demeure en présence de Dieu, elle s'applique à l'adorer, à lui tenir compagnie. Et maintenant, quelques leçons pour le temps de l'Avent. Suivons ce modèle de Notre-Dame. Prenons en elle, par la prière, la grâce de lui être de mieux en mieux assimilée dans ses vertus qu'elle pratique. Et d'abord, donc, nous en verrons trois. Nous verrons la pureté, la présence à notre Seigneur Jésus-Christ et puis le service du prochain. D'abord, la pureté. Pie IX, lorsqu'il a institué la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1854, avait comme dessein non seulement de proclamer un dogme qui était déjà cru depuis un certain temps et donc d'augmenter les gloires de Notre-Dame, mais il avait aussi comme intention de combattre le naturalisme de notre époque contemporaine. Notre époque, cette erreur du naturalisme qui est très grave, qui a maintenant complètement pénétré l'esprit de nos contemporains et les institutions de nos sociétés. Le naturalisme consiste, cette erreur consiste à dire que la nature humaine est bonne et n'est pas blessée. Que la nature humaine se suffit pour atteindre une perfection naturelle, que, non seulement individuelle mais sociale. Alors que le dogme du péché originel que nous croyons, que nous devons croire, nous rappelle, et la fête de l'Immaculée Conception nous le rappelle, que tous les hommes, sauf Notre-Dame, sont nés avec la tâche du péché originel. Et que cette tâche du péché originel, non seulement les a rendus hostiles à Dieu, radicalement, mais que cette tâche du péché originel a des suites, qu'elle les rend incapables, même dans le simple domaine naturel, d'atteindre une perfection. Que la nature humaine est tellement blessée, déréglée par les suites du péché originel, même après le baptême, qu'elle n'est plus capable de vivre même une vie naturelle, sans parler de la vie surnaturelle, même une vie naturelle, elle n'est plus capable de garder la loi naturelle entièrement et sur une longue durée, sans la grâce surnaturelle. Donc ça, c'est une vérité qu'il faut toujours nous rappeler, encore une fois, spécialement à notre époque, où elle est soit ouvertement, soit implicitement niée par toute la pensée contemporaine et par toutes les institutions de la société moderne. Nous sommes donc blessés, nous sommes malades. Vous voyez la différence avec les animaux. Les animaux n'ont évidemment pas de vie surnaturelle. Mais les animaux ne sont pas blessés dans leur nature. C'est-à-dire que les animaux, comme nous le constatons, sont d'abord beaucoup moins malades que les hommes, au simple point de vue corporel, physique, beaucoup moins malades, et qu'ils réalisent ce qui convient à leur espèce d'une façon relativement parfaite. Ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Nous voyons au contraire que tous les hommes sont bizarres dans le sens où ils sont pécheurs, ils font le mal, ce n'est pas le cas des animaux. Donc nous sommes corrompus, et même après le baptême, bien que l'aversion, l'hostilité vis-à-vis de Dieu disparaisse parce que nous retrouvons l'amitié avec Dieu, mais il reste les blessures. Il reste cette tâche et nous sommes davantage blessés dans la volonté que dans l'intelligence. Nous sommes encore davantage blessés dans l'appétit sensitif que dans la volonté spirituelle. Et spécialement, nous sommes blessés, c'est là que pour le plus commun des hommes, la blessure est la plus envenimée, dans l'appétit concupiscible, c'est-à-dire dans l'attrait excessif des biens, des satisfactions, des jouissances corporelles. Cette blessure de la concupiscence gagne du terrain, particulièrement aujourd'hui, dans l'humanité, du fait, d'une part, pour une partie de l'humanité, du confort corporel inouï, qui fait qu'il y a beaucoup moins de lutte ou d'efforts à faire pour... où il y a beaucoup moins de souffrances qui viennent, corporelles qui viennent contre cet esprit de concupiscence, et d'autre part, à cause de l'impudicité de la pornographie répandue universellement. Donc cette blessure de la concupiscence, pardon, s'envenime universellement aujourd'hui encore davantage. Or, la pureté du corps au service de la pureté du cœur est indispensable pour une vie juste et pour le salut. L'ennemi, nos ennemis savent très bien ce qu'ils font lorsqu'ils corrompent lorsqu'ils plongent l'humanité dans l'impureté. Ils savent très bien que ça pose un obstacle énorme à la vie spirituelle et au salut des hommes. Bien que ce ne soit pas l'obstacle le plus direct, c'est ce qui va contre la foi, mais indirectement, c'est ce qui met le plus d'obstacles au salut des hommes. Notre Seigneur a bien dit « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Les remèdes à cette corruption de notre nature, spécialement dans cet appétit concupiscible, eh bien, celui que nous pouvons employer pendant ce temps de l'Avent, c'est de contempler Notre-Dame. Bien entendu, également, je vous le disais hier, Saint-Joseph, notre Seigneur Jésus-Christ, mais spécialement Notre-Dame. Quand nous contemplons la perfection de cette âme, la perfection de notre Mère du Ciel, nous découvrons le sens de la pureté. Cette pureté qui est requise ne consiste pas dans une espèce de peur, de raideur, dans une observation d'une prescription purement négative. La pureté est une force. Être pur, c'est avoir maîtrisé en soi les tendances obscures qui empêchent d'être libre et qui empêchent d'aimer et de servir correctement. Si la Sainte Vierge était tellement tournée vers Dieu, si simplement, si humblement tournée, si elle a souscrit pleinement à la proposition de l'ange, à sa mission de se donner avec Jésus pour l'humanité, c'est tout simplement parce qu'elle était parfaitement pure. Ce qui nous empêche, nous, d'être généreux, c'est que nous ne sommes pas parfaitement purs. Marie était ainsi exceptionnellement prête et disponible à sa tâche d'amour exceptionnel, être la mère du Christ et la nôtre. Alors, contempler Notre-Dame, c'est entrer en contact avec elle par la prière, et spécialement par le rosaire, puisque le rosaire nous fait à la fois prier et contempler. Quand nous prions ces mystères, nous touchons le cœur de Notre-Dame et ce contact nous purifie. Deuxième remède, c'est de mortifier ses regards. Alors un effort à faire pendant ce temps de l'Avent, faire notamment peut-être éviter déjà tous les magasins ont sorti toutes leurs décorations de Noël, les sapins de Noël, etc., comme si Noël était déjà arrivé. Restons recueillis, évitons tout ce qui distrait un peu nos regards, mortifions nos regards. Le roi David est tombé dans le péché parce qu'il a commencé à regarder. Il avait vu, sans doute, mais il a regardé. Et c'est là la différence entre voir, on ne peut pas toujours éviter de voir, mais il ne faut pas regarder. Et ainsi, nous devons toujours, nous les prêtres vous rappeler, absolument indispensable de rompre avec les occasions d'impureté, qui sont aujourd'hui spécialement l'Internet et les téléphones portables. Donc il est absolument requis de mettre des filtres sur vos navigateurs, de mettre des filtres sur vos téléphones ou des mots de passe qui empêchent d'accéder aux sites dangereux, ou encore mieux, d'éviter ces téléphones modernes où on a Internet. C'est pas la peine, vous l'avez chez vous, vous n'avez pas besoin d'avoir ça dans la rue. Un téléphone ordinaire où on ne peut que téléphoner, ça suffit bien. Parce que malgré la bonne volonté de chacun, et je pense que chacun en a fait l'expérience, il n'est pas possible longtemps de garder cette volonté ferme pour éviter de tomber. Et à un moment, on tombe par curiosité, par faiblesse. Donc il faut prendre des moyens radicaux, également sur l'ordinateur, pour empêcher l'accès à ces sites, à ces images qui vous font tomber et qui empêchent l'âme de s'élever vers Dieu. Alors, il y a des moyens pratiques, si vous n'êtes pas au courant, je peux vous donner des conseils pratiques, techniques, pour régler ces problèmes. Il faut choisir entre le monde et Dieu. Il faut choisir entre le péché et une vie juste. Que nous dit notre Seigneur dans l'Évangile? Il dit, si ton œil est une occasion de scandale, arrache-le. Si ta main est une occasion de scandale, coupe-la. Il vaut mieux pour toi d'aller au ciel avec un seul œil ou une seule main que d'aller dans l'enfer avec les deux. Ça ne veut pas dire qu'il faille le faire au pied de la lettre, évidemment. Mais ça veut dire qu'il faut être radical pour supprimer les occasions de péché. Sinon, la vie est empoisonnée en permanence. Et troisièmement, dans ces remèdes à la corruption de notre nature, refuser au corps toutes ses aises. Ça, c'est le danger du confort de l'Occident. Saint Thérèse d'Avila nous met en garde. Notre corps a cela de fâcheux. Plus on y fait attention, plus il montre d'exigence. C'est étrange comme il aime être bien traité, comme il trouve quelque bon prétexte de tromper la pauvre âme pour l'empêcher de progresser. Alors très concrètement, comment faire pendant le temps de l'Avent, qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser dans ce contrôle, de limiter les satisfactions, les conforts corporels? Bien tout simplement, l'Église nous propose le jeûne. Aux quatre temps au moins, autrefois, vous direz qu'aujourd'hui, l'Église ne le demande plus, mais si l'Église marchait sur ses pieds et non pas sur sa tête, certainement que les papes demanderaient de reprendre le jeûne. Eh bien, pourquoi ne pas le faire? Ce sera la troisième semaine de carême. Carême, de jeûner ce mercredi, vendredi et samedi des quatre temps. Et même, pourquoi pas chaque vendredi si possible. Il n'y a que 24 jours dans ce carême. Ce n'est pas surhumain de faire cet effort pour discipliner notre corps, pour rendre la liberté à l'âme, également pour expier les péchés commis avec le corps, et puis surtout, avant tout, pour libérer notre âme, la rendre disponible à la grâce. Je vous le disais hier, rappelons-nous cette grande vérité. L'essentiel de notre existence va se passer dans l'au-delà, après la mort. Ce temps ici-bas est extrêmement court. Mais c'est ce temps ici-bas extrêmement court qui décide de notre éternité. Soit qui décide du ciel ou de l'enfer, soit qui même, pour le ciel, décide du degré de gloire et du degré de béatitude, suivant notre générosité ici-bas. Donc, soyons généreux ici-bas pour que notre âme puisse commencer cette vie divine dès ici-bas. Saint Vincent Ferrier écrit: vous ne pourrez jamais réprimer les révoltes intérieures de l'âme si vous n'avez auparavant soumis votre corps à une discipline si exacte qu'elle l'empêche de faire non seulement une action, mais le moindre mouvement déplacé. Dans cette discipline que vous vous imposerez, attaquez-vous d'abord à vaincre la gourmandise. Car si vous n'êtes maître de ce vice, en vain travaillerez-vous à acquérir les autres vertus. Et ici, Saint Vincent Ferrier ne fait que reprendre tout ce que disent les pères de l'Église, les pères du désert. Les pères du désert expliquent bien que le premier vice à maîtriser, c'est la gourmandise, avant tout le reste. Mère Thérèse de Saint-Augustin, qui était la fille de Louis XV et qui est devenue carmélite, était très attachée au jeûne malgré sa très fragile santé. Et en 1783, elle a écrit à l'évêque de Clermont-Ferrand, qui avait l'intention de diminuer les exigences du jeûne dans son diocèse, alors elle lui a écrit pour le supplier de ne pas adoucir les rigueurs du carême. Et elle lui écrit ceci: j'ai vécu 32 ans à la cour de Versailles, dont vous pouvez imaginer le régime de luxe et de confort et de bons repas. J'ai vécu 32 ans à la cour sans pouvoir soutenir un très bon maigre, c'est-à-dire l'abstinence de viande. Elle n'a pas pu la soutenir pendant ces 32 ans qu'elle était à la cour. Voilà 13 ans que je le soutiens ici au Carmel. Un peu moins bon que celui du plus petit bourgeois, puisque le Carmel était où elle était très pauvre. Et grâce à Dieu, je vais commencer mon 13e carême. Alors écoutez bien. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger de viande, mais je vais commencer mon 13e carême sans œufs, ni beurre, ni laitage. Je vous assure, mon Père, que je consentirai à le faire au pain et à l'eau, que je consentirai à bien d'autres choses encore pour que vous, saint évêque que vous êtes, ne mollissiez pas sur la loi de l'abstinence, et s'il le fallait, je le signerais de mon sang. » Vous voyez le niveau de ces chrétiens du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et pourtant, ce n'était pas sans doute, donc les gens de la cour, ce n'étaient sans doute pas les plus courageux des chrétiens ou les plus justes. Donc, essayons de faire des efforts dans ce domaine-là, avec ce but ultime, je cherche Dieu, je veux m'unir à Dieu, je veux commencer ma vie éternelle ici-bas, il faut en prendre les moyens. Il faut être conscient de nos blessures, combattre ces blessures par les moyens appropriés. D'autre part, cette pénitence que nous faisons au temps de l'Avent est là non seulement pour nous purifier, expier nos péchés, mais elle comporte une dimension apostolique. C'est ça qui est merveilleux, c'est que nous pouvons faire trois choses à la fois. Non seulement réparer nos péchés passés, non seulement réprimer les mouvements désordonnés qui nous viennent des blessures du péché originel, mais également mériter pour le prochain. Lucie raconte au sujet de Jacinthe, à Fatima, Lucie de Fatima, lorsque, par mortification, Jacinthe ne voulait pas manger, donc elle était toute petite, elle avait 6 ans ou 7 ans, je lui disais, Jacinthe, allons, mange maintenant. Et Jacinthe répondait, non, j'offre ce sacrifice pour les pécheurs qui mangent trop. Première leçon donc, cette pureté dont la Sainte Vierge nous montre l'exemple, pureté qui est requise pour que nous puissions nous élever vers Dieu. Deuxième leçon, la vie en présence de Dieu. Nous avons vu comment Saint Joseph, nous avons vu comment Notre-Dame avait cette grâce de ne pas être entièrement investi, plongé dans la vie extérieure, mais qu'au contraire, l'essentiel de leur vie se passait à l'intérieur avec Dieu. Eh bien, ça ne vaut pas seulement pour eux, ça vaut pour tout chrétien. Par le baptême, nous sommes rentrés dans la vie trinitaire. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité aimait, elle aussi, c'était une grâce très particulière qu'elle a reçue, qui l'a portée à cela d'une façon très intense, elle se réfugiait à tout instant dans cette présence du Christ en elle. Elle écrit « Je sens qu'il me communique la vie éternelle. Restons recueillis près de celui qui est, près de l'immuable dont la charité est toujours sur nous. Je suis celle qui n'est pas. » Elle reprend les paroles de Sainte Catherine de Sienne, ou plutôt de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit à Sainte Catherine de Sienne, « Je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas. » Parce que Dieu existe par lui-même, nous n'existons que par lui. Allons à celui qui veut que nous soyons toutes siennes, qui nous enveloppe si bien que nous ne vivions plus, mais que lui vive en nous. Elle est si suave et si douce, la divine présence du Maître. Elle donne tant de force à l'âme. Croire que Dieu nous aime au point d'habiter en nous, de se faire le compagnon de notre exil, le confident, l'ami de tous les instants, c'est l'intimité de l'enfant avec sa mère, de l'épouse avec l'époux. Le temps de l'Avent est un temps de recueillement, un recueillement en Dieu, un silence en Dieu. Alors arrêtons-nous de temps en temps, de temps en temps cessons l'activité et retournons vers l'essentiel. Quand par exemple? Eh bien, quand vous sortez de chez vous, avant de sortir, un instant, on passe devant le crucifix, on le regarde et on se rappelle que Dieu vit en mon âme. Ou bien en rentrant, ou bien en passant devant une église, ou bien en passant devant un calvaire. C'est pas long, c'est quelques secondes ou une demi-minute, une minute, et se rappeler, oui, Dieu est en moi, il est vivant en moi, il est attentif à moi, et je reviens à lui. C'est ça tout simplement la présence de Dieu. Et à force de le faire ainsi, ça devient de plus en plus fréquent, et ça devient comme la présence d'un être aimé dans la même maison. Vous avez tous cette expérience, quand nous sommes en famille, nous sentons bien que les autres sont là ou ne sont pas là, même s'ils ne sont pas dans la même pièce. Nous sentons leur présence. Eh bien ici, c'est beaucoup plus vrai, parce que cette présence est spirituelle et notre Seigneur, Dieu, la Sainte Trinité, est présente en notre âme jour et nuit incessamment et attentif à nous incessamment. C'est notre vocation divine, nous sommes faits pour ça, nous avons été créés pour ça. Alors dans l'éternité, ce sera en permanence, ce sera tout simple, mais ça doit commencer ici-bas, c'est la suite de notre baptême, tout simplement. Ce n'est pas réservé aux seules âmes contemplatives. Dans ce sens, la bienheureuse Élisabeth écrivait à sa mère, « Si tu lis l'Évangile selon saint Jean, tu verras qu'à tout instant, le Maître insiste sur ce commandement, « Demeurez en moi et moi en vous. » Demeurez, voilà ce que Jésus nous dit pendant ce temps de l'Avent, « Demeurez en moi et moi en vous. » Et encore cette pensée si belle, dans laquelle il parle de faire en nous sa demeure. Saint Jean, dans ses épîtres, souhaite que nous ayons société avec la Sainte Trinité, vivre en société. Ce mot est si doux et si simple. Il suffit de croire, Dieu est esprit, et c'est par la foi que nous approchons de lui. Nous avons vu ça hier. Pense que ton âme est le temple de Dieu. C'est encore Saint Paul qui le dit. À tout instant du jour et de la nuit, les trois personnes divines demeurent en toi. Tu ne possèdes pas la sainte humanité comme quand tu communies, mais la divinité. Quand nous communions, nous recevons la divinité et l'humanité. Mais en permanence, quand nous sommes en état de grâce, nous avons en nous la divinité. Cette essence que ces bienheureux adorent dans le ciel, elle est en ton âme. Alors, quand on sait cela, c'est une intimité tout abordable. On n'est plus jamais seul. Et ça, c'est important. On n'est plus jamais seul. Si tu préfères penser que le bon Dieu est près de toi plutôt qu'en toi, suis ton attrait, pour plus que tu vives avec lui. Et parce que suivant les âmes, des âmes se représentent plus facilement, ou plutôt ont plus facilement conscience de la présence de Dieu en elles, ce qui est vrai, et d'autres ont plus facilement conscience de la présence de Dieu partout dans l'univers, autour de nous. Donc il faut suivre simplement l'attrait qui correspond à notre âme. Les deux sont vrais. Donc comment faire? Tout simplement adhérer à Dieu par la foi, par la pratique des vertus, par la charité. Certains croient que vivre dans la présence de Dieu consiste à prendre une attitude figée et fermer les yeux. Ça peut aider, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Saint Jean Bosco se roulait dans la poussière avec ses enfants et il ne perdait pas pour cela la présence de Dieu. L'essentiel est dans l'intention que l'on doit garder vers Dieu, aussi actuelle que possible, aussi souvent que possible. Et elle écrit à une amie, la bienheureuse Élisabeth écrit à une de ses amies qui est aussi, qui vit aussi dans le monde, mère de famille. Vous voudriez être tout à lui, quoique vivant dans le monde. C'est si simple. Il est toujours avec nous. Soyons toujours avec lui. À travers toutes vos actions, dans vos souffrances, quand votre corps est brisé, demeurez sous son regard. Voyez-le vivant en votre âme. Rien ne peut nous empêcher d'adhérer à lui par l'amour, ni les joies, ni les tristesses de la terre, ni la santé, ni la maladie, ni les flatteries ou les malices des hommes. Vous connaissez cette chinoise, Rose Hu, peut-être, qui a écrit un livre qui raconte son témoignage dans les prisons chinoises, les camps de concentration chinois pendant quelque chose comme 40 ans. Elle vivait en présence de Dieu, ce qui lui a permis de déjouer toutes les manœuvres, les tentatives des communistes pour la faire participer ou apostasier. Et elle vivait en paix, en présence de Dieu pendant ces 40 ans, de camp de concentration. Donc faisons ces actes de recueillement. Elle écrit encore à sa mère, « Petite maman, profite de ta solitude pour te recueillir avec le bon Dieu. tandis que ton corps se repose, pense que le repos de ton âme, c'est lui, et que comme une enfant aime à demeurer dans les bras de sa mère, toi tu trouves aussi ton délassement dans les bras de ce Dieu qui t'environne de toutes parts. Nous ne pouvons pas sortir de lui, mais hélas, nous oublions parfois sa sainte présence, et nous le laissons tout seul pour nous occuper de choses qui ne sont pas lui. C'est si simple cette intimité avec Dieu, cela repose plutôt que de fatiguer, comme une enfant se repose sous le regard de sa mère. Offre-lui toutes tes souffrances, voilà une bonne manière de t'unir à lui et une prière qui lui est agréable. Alors cela demande au début une certaine persévérance, mais surtout de faire l'effort de l'exercice de la foi, parce que ça dépasse complètement notre spontanéité naturelle. Nous ne voyons rien, nous ne sentons rien, nous savons simplement que Dieu est là. Donc exercez la foi. Et la Bienheureuse écrit encore, « Ah, je voudrais pouvoir dire à toutes les âmes quelle source de force, de paix et aussi de bonheur elles trouveraient si elles consentaient à vivre en cette intimité. Seulement, elles ne savent pas attendre. » Alors on fait un effort et puis on n'en tire rien, semble-t-il, on arrête. Seulement, elles ne savent pas attendre. Si Dieu ne se donne pas d'une façon sensible, elles quittent sa sainte présence. Et quand il vient à elles, armées de tous ses dons, il ne trouve personne. L'âme est au dehors, dans les choses extérieures, elle n'habite pas au fond d'elle-même. Donc essayez pendant ce temps de l'Avent de progresser dans cette habitude de vivre en présence de Dieu. Ou en présence de la Sainte Vierge. C'est pareil, simplement la Sainte Vierge n'est pas présente substantiellement dans notre âme comme Dieu. Elle est présente au ciel, elle nous voit, elle est attentive à nous, elle nous entend, elle nous écoute, mais elle n'est pas présente en nous, tandis que la Sainte Trinité est présente en nous. Et puis troisième leçon, dernière pour ce temps de l'Avent, lorsque l'âme vit en présence de Dieu, lorsque l'âme s'est au préalable dégagée de l'esclavage de la sensibilité par une mortification pratiquée par amour et en esprit de foi, donc lorsqu'elle atteint une certaine pureté, l'âme devient capable d'aimer. Et qu'est-ce que c'est aimer ? C'est se renoncer, porter les peines et se donner au prochain. C'est ce qu'a vécu Saint Joseph, c'est ce qu'a vécu Notre-Dame et c'est ce qu'a vécu notre Seigneur. L'expérience intérieure de l'amour personnel de Dieu pour nous comble l'âme de paix, de joie et la rend capable de se donner à son tour elle-même aux autres. Lorsque Dieu se donne à nous depuis le baptême, ce n'est pas seulement pour notre vie à nous, c'est pour que nous soyons nous aussi instruments de Dieu pour faire du bien au prochain. Sa vie s'écoule en nous et avec le consentement de notre volonté libre, comme le fiat de Notre-Dame, nous agissons extérieurement, intérieurement, de façon semblable à Dieu. Nous rendons service à notre prochain, non pas parce que le prochain est agréable, non pas parce que ça nous fait plaisir, mais parce que nous aimons Dieu. Et ainsi nous reproduisons la vie divine. Nous laissons s'écouler en nous l'activité de Dieu, l'opération de Dieu. Pour cette charité fraternelle, il n'y a pas à attendre d'occasion extraordinaire. La Sainte Vierge est partie voir sa cousine, elle a passé ses 6 mois chez elle, elle a rendu service à elle et à Joachim par des petits actes de la vie quotidienne. Notre vie réelle se réduit Notre vie avec nos frères se réduit à une série de circonstances très banales, de détails petits, insignifiants, terre à terre, et c'est là qu'il s'agit d'être charitable, de s'oublier, de se gêner, de se donner. Et sinon, on est dans le rêve. Alors, petits exemples ici, le respect. Le respect dans la famille, le respect entre tous les membres de la famille, le respect des enfants pour les parents, le respect des époux entre eux, et puis un certain respect des parents pour leurs enfants aussi, en tant que temple du Saint-Esprit. Respect dans la façon de parler, saint Paul dit, prévenez-vous les uns les autres d'honneur. Est-ce que dit saint Paul? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous nous prévenons mutuellement d'honneur? Le respect du silence, du recueillement des autres. Le respect et l'estime dans la société, spécialement entre chrétiens, malgré l'ambiance égoïste qui nous entoure. C'est une charité fraternelle. Le respect, mais aussi la cordialité, donner de l'attention aux autres. C'est ce qui nous coûte peut-être le plus notre temps. Nous manquons de temps, eh bien donnons du temps aux autres. Donnons un peu de temps d'attention. Éprouvons que nous sommes membres du même corps, soit du même corps social dans la cité, soit bien davantage du même corps mystique entre chrétiens. Nous sommes membres les uns des autres, nous appartenons au même corps de Jésus-Christ. Le saint François de Sales écrit « La vertu de bonne conversation requiert que l'on contribue à la joie sainte et modérée. » Contribuer à la joie dans la famille, à rendre le prochain joyeux. Et puis la compassion, compatir aux peines du prochain. Comme dit encore saint Paul, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » La compassion. Saint Thérèse de Lisieux dit « Un sourire, une parole aimable lorsque je voudrais me taire et montrer de l'ennui. » Ça, c'est la charité concrète. Supporter les défauts des autres avec patience et miséricorde et ne pas les juger. Ne pas juger leurs intentions. La première qualité de la charité indiquée par saint Paul, c'est la patience. La charité est patiente, dit-il. Et c'est bien davantage en supportant, en pâtissant, bien plus qu'en agissant, que notre oubli de nous-mêmes, que notre abnégation se manifeste. Lorsque le prochain est insupportable, alors un auteur disait, la charité consiste à supporter ceux qui sont insupportables. Donc quand le prochain est insupportable, eh bien, au lieu de le critiquer et de nous mettre en colère, réfléchissons comment nous pouvons le rendre meilleur. Ça, c'est la charité. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit moins insupportable? Non pas le frapper, non pas le crier, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, pour qu'il soit touché et qu'il soit moins insupportable? Voilà la charité. La charité fraternelle, elle aussi, purifie l'âme. Pourquoi? Parce que c'est une mort à nous-mêmes incessante. Et cette charité fraternelle n'est rendue possible que par un amour vrai de Dieu. Comme le dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Je vois avec bonheur qu'en aimant Dieu, le cœur s'agrandit, qu'il peut donner incomparablement plus de tendresse à ceux qui lui sont chers que s'il s'était concentré dans un amour égoïste et infructueux. » Eh bien, notre Seigneur vient à Noël ouvrir les écluses de la miséricorde de Dieu. Le ciel était fermé par le péché. Les hommes n'avaient pas le moyen de retourner à Dieu. Dieu se fait homme et il vient mourir pour sauver les hommes. Il se fait non seulement homme, mais minuscule, comme nous le verrons tout à l'heure, pour se donner aux hommes. Est-ce que ce n'est pas l'invitation nous-mêmes à nous donner aux autres? Nous-mêmes d'abord à nous donner à lui, à vivre en sa présence, en étant touchés de ce qu'il a fait pour nous, et puis ensuite de nous donner aux autres. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge, contemplons la Sainte Vierge, spécialement dans le rosaire, pour participer à cette pureté de l'Immaculée Conception, à ses désirs, à son attention à Jésus vivant en son âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.